grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons examiné quelques événements qui se sont déroulés après la résurrection du Christ. Le dimanche matin, Jésus défendit à Marie de le toucher, car il n'était pas encore monté vers son Père. Si le Christ avait une âme immortelle qui pouvait monter vers Dieu dès sa mort, il y serait monté en compagnie du malfaiteur. Mais il est le seul à être monté vers son Père, et ce ne fut pas dès sa mort, cela n'eut lieu qu'après sa résurrection seulement, et pas avant. En ressuscitant, le Christ devint les prémices, la toute première récolte de ceux qui sont morts. Mais de ceux qui sont morts en Christ et qui participeront à la première résurrection, qui, elle, est symbolisée par la petite moisson de printemps. Il faut comprendre que la gerbe mentionnée dans le livre de Lévitique étaient les prémices, l'échantillon de la petite moisson de printemps. Cette gerbe préfigurait le Christ, et elle devait être agitée, présentée devant l'Éternel pour être agréée, avant que la moisson ne puisse commencer. De même, le Christ devait se présenter à son Père pour que son sacrifice soit agréé. Ensuite, la moisson des chrétiens pouvait débuter. Ces chrétiens iront à la rencontre du Seigneur lors de la première résurrection et ils se présenteront aussi au Père à ce moment-là. Examinons maintenant la dernière des six doctrines fondamentales mentionnées par l'apôtre Paul dans le sixième chapitre de son épître aux Hébreux. Il s'agit du jugement éternel. Un jugement éternel. Certains s'en moquent, car ils prennent cela pour de la superstition. D'autres en sont effrayés parce qu'ils ont entendu des histoires horribles qui d'ailleurs ne sont pas conformes avec les Saintes Écritures. Si nous cherchons dans un dictionnaire la définition du mot « éternel », nous trouvons ceci « qui est hors du temps, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin ». Comment notre esprit peut-il concevoir quelque chose qui est sans commencement et sans fin ? C'est comme le mot « infini ». Prenez n'importe quel nombre, aussi grand soit-il, vous pourrez toujours y ajouter un autre nombre, et cela sans jamais atteindre de limite. Par contre, ce qui est physique est limité. Mais lorsqu'on compare un milliard d'années à l'éternité, ce n'est qu'un moment. Rien de ce qui est physique est éternel ou ne sera éternel. Cependant, Dieu offre la vie éternelle à ceux qui décident d'obéir à ses commandements et à ses lois. L'éternité, malgré tous nos efforts pour tenter de la comprendre, demeure insaisissable pour notre esprit. Cependant, c'est bien ce que Dieu offre à l'humanité. On dit que l'univers existe depuis des milliards d'années. Une telle durée de temps est difficile à saisir, surtout si nous la comparons aux 70 ans impartis à l'homme. Pourtant, ces milliards d'années ne sont qu'un court instant par rapport à l'éternité. Le Dieu créateur nous a créés temporels, nous sommes soumis au temps, qui est une référence pour notre compréhension. C'est pour cela que nous ne pouvons pas comprendre ce que l'éternité représente. Dieu a-t-il vraiment mis les hommes devant ton choix, monter au ciel ou descendre en enfer pour l'éternité? Le jugement est-il une décision prise par un être suprême qui a dénombré et pesé tous les péchés commis par chaque individu depuis sa plus tendre enfance jusqu'au moment de sa mort? Le mot jugement n'a-t-il qu'un côté négatif? Ne serait-ce qu'une sorte de condamnation qui pèse sur les individus? Dieu est un Dieu juste et le jugement, prêché par les églises soi-disant chrétiennes de ce monde, ne correspond nullement à la réalité. Le mot jugement devrait susciter en vous joie et enthousiasme. Prenons le cas d'un étudiant. Il cherche à acquérir les connaissances nécessaires pour pratiquer le métier qu'il s'est choisi. Après des années d'études, après de nombreux efforts, après les examens finaux, il apprend qu'il a réussi. Il a enfin achevé son parcours, il a atteint le but. Quelle joie ! Il va enfin recevoir sa récompense. Ainsi en est-il du jugement de Dieu avec deux différences fondamentales. Le diplôme final du véritable disciple du Christ ne dépendra pas de quelques années d'études, mais de nombreuses années au cours desquelles il approfondira ses connaissances et son obéissance, et la récompense que Dieu souhaite accorder sera plus importante qu'un diplôme professionnel. La récompense que Dieu décernera sera valable pour toute l'éternité. Le jugement de Dieu est la récompense de tous ceux qui lui obéissent. Le jugement sera décerné lorsque Dieu informera ses enfants de ce qu'ils feront après leur résurrection. Les noces de l'agneau et la Nouvelle Jérusalem seront l'aboutissement des chrétiens, des fidèles, aboutissement que Dieu souhaite pour tous les êtres humains. La parole de Dieu n'est pas très loquace sur ce qui arrivera alors. Toutefois, le Christ a déclaré, « Il y a plusieurs demeures, plusieurs postes de responsabilité dans la maison de mon Père. L'univers est immense et l'éternité est sans fin. » L'apôtre Paul a écrit, « Qu'est-ce que l'homme, l'homme mortel et pécheur, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, Jésus, pour que tu prennes soin de lui ?» Tu as mis toutes choses, et ceci comprend donc l'univers entier, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant, en soumettant à l'homme toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises à l'homme. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses, et il s'agit ici de Dieu le Père, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup d'hommes, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, le Christ qui est l'auteur de notre salut. Comment Dieu peut-il décider du poste de responsabilité qu'il décernera à chacun de ceux qui naîtront dans sa famille au moment de la résurrection? Dieu connaît les siens. Il connaît ceux qui ont fait une alliance avec lui, qui vivent comme le Christ a vécu. Il connaît chacun d'eux, il choisira le meilleur poste de responsabilité pour chacun. Dieu tiendra compte de notre personnalité et de nos aptitudes, comme le fait un père qui aime ses enfants. Dieu connaît chacun des enfants qu'il a engendrés. Il sait ce que nous aimons. Le travail qui nous sera imparti nous ira comme un gant. Aujourd'hui, l'homme a des responsabilités. Il doit se qualifier et, selon le résultat obtenu, Dieu déterminera sa récompense à accorder, comme l'expliquent les paraboles des talents et des mines. Jésus a déclaré, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Il a ajouté, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le jugement de Dieu s'établira-t-il sur quelques minutes à la lecture du bilan des points positifs et des points négatifs? L'apôtre Pierre a écrit, « Car c'est le moment, ou le moment est venu, où le jugement va commencer par la maison de Dieu, par l'Église de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, autrement dit à la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Le jugement des fidèles est déjà en cours. Mais qu'en sera-t-il pour ces milliards de gens qui sont morts depuis longtemps, au cours du déluge, de Pharaon et de son armée qui périrent dans la mer Rouge, de ceux qui furent désintégrés sous l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima, et tous ceux qui ont vécu en Afrique, en Asie, sur le continent sud-américain, sans jamais avoir entendu parler du Christ? Le grand plan de salut, mis en place par Dieu, sera disponible pour eux aussi. Tous ceux qui n'ont jamais été appelés par Dieu, ceux qui sont morts quelques heures ou quelques jours après leur naissance et qui n'ont pas eu la moindre expérience de la vie, aucune connaissance du Dieu vivant, connaîtront un jour la vérité. Ils auront alors leur première et unique chance de faire la volonté de Dieu. Mais qu'en est-il de vous tous qui m'écoutez? Lorsqu'une personne sait, et sait qu'elle sait qu'il y a un Dieu dans les cieux et qu'elle connaît ce que Dieu lui commande de faire, si elle connaît sa volonté et se laisse emporter par des arguments qui l'éloignent de la vérité, sans réagir, alors il est fort probable que cette personne rejette sa chance. Sa responsabilité est de faire la volonté de Dieu. Toutefois, elle peut choisir de la rejeter. L'apôtre Pierre écrivit ce que je tire de la Bible traduite en français courant. Le moment est arrivé où le jugement commence et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, Comment s'achèvera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Si les bons sont sauvés difficilement, qu'en sera-t-il des méchants et des pécheurs? Mais à qui Pierre adresse-t-il sa lettre? À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, cet Esprit que Dieu ne donne qu'à ceux qui lui obéissent, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, autrement dit qu'ils soient purifiés, justifiés par son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comme cela a déjà été expliqué au cours de missions précédentes, personne ne peut convertir qui que ce soit. Certains sont appelés au cours de cette présente époque, ils doivent se soumettre à la volonté de Dieu et se repentir des transgressions commises. Mais la vaste majorité de ceux qui ont vécu, ou de ceux qui sont en vie aujourd'hui, auront la possibilité de connaître la vérité après le millénium, car ils reviendront à la vie, à une vie physique, au cours de laquelle ils seront jugés à leur tour. C'est ce qu'explique le prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Lisez donc tout ce chapitre, cela vous aidera à comprendre. L'apôtre Jean confirme cette résurrection, il l'a vue en vision, c'est pourquoi il écrit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, il s'agit des livres qui forment la Bible, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, les œuvres bonnes ou mauvaises, qu'ils accompliront au cours de cette seconde vie. » D'après ce qui était écrit dans ces livres. Puisque ces gens n'ont jamais connu la vérité, puisque certains n'ont jamais eu la possibilité de faire la moindre œuvre bonne ou mauvaise car ils sont morts trop jeunes, il est certain qu'ils reviendront à la vie et alors, mais alors seulement, ils connaîtront la vérité. Ils connaîtront la volonté de Dieu, ses lois et ses commandements. Ils auront une centaine d'années devant eux pour accomplir leurs œuvres, bonne ou mauvaise, et leur jugement débutera dès qu'ils reviendront à la vie. C'est ce que le prophète Ésaïe écrit, « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Celui qui se soumettra à Dieu aura alors la possibilité d'entrer dans la famille divine, et il sera transformé d'être physique en être spirituel. Les autres, les insoumis, seront réduits en cendres, comme l'a annoncé le prophète Malachie. C'est là la grande justice de Dieu qui ne fait exception de personne. Voilà pourquoi tous les hommes seront jugés équitablement. Le Dieu vivant et tout-puissant a établi un grand plan pour l'humanité. Chacun aura sa chance. Tous seront jugés sur les mêmes bases, sur les mêmes lois. Tous auront la même connaissance pour faire leur choix. Dieu a dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Il s'agit de la vie éternelle et de la mort éternelle. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.